Aujourd'hui, je veux absolument voir avec vous un autre message et j'aimerais qu'on médite ensemble quelques instants dans le livre de l'Exode, au chapitre 19 et au verset 1er. Exode, chapitre 19, verset 1er. Le troisième mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Moïse, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, tout est important dans le texte, hein. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation mise à part. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple. Il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Il y a un autre aspect dans la pédagogie divine. Au sujet du désert, il y a un aspect important qui est l'engagement. Le désert est un lieu où il faut absolument prendre position et s'engager. Dans ce texte, ici, Dieu demande à son peuple un engagement. On peut prendre la Bible dans tous les sens, Ancien, Nouveau Testament, sous tous les angles d'attaque, d'étude, de méditation, on peut considérer, reconsidérer. Si vous faites bien attention, c'est choquant ce que je vais dire, la toute-puissance de Dieu et l'amour immense et infini de Dieu ne sont pas suffisants. Si vous faites bien attention, toutes les promesses de la Bible sont liées à des impératifs. À chaque fois qu'il y a promesse, il y a condition. À chaque fois qu'il y a promesse, il y a un impératif qui est lié à cette promesse. Et combien même, c'est vrai, Dieu est grand, il est tout puissant, il est plein d'amour, Dieu fait toujours sa part d'impossible. Mais il ne fera jamais à notre place ce que nous avons à faire. Et jamais un ange ne viendra s'engager de cœur à ta place. L'engagement, c'est toi. Si un homme et une femme s'aiment et qu'ils veulent être mariés et vivre ensemble avec toutes les bénédictions que ça comporte d'être, de vivre ensemble, il faut deux oui devant Monsieur le maire. Jésus, il a dit oui depuis très longtemps et un oui qui lui a coûté extrêmement cher. Mais si la deuxième partie, n'a pas un oui de cœur, un oui déterminé, s'il n'y a pas d'engagement, tout est en suspens. Il faut signer le contrat, il faut passer à la mairie, il faut dire oui, un oui de cœur. Et sans engagement, il ne se passe en vérité jamais rien. Sans engagement, on reste comme le peuple des spectateurs. On est là devant la montagne de Dieu, devant sa parole, le mont Sinaï symbolise la parole de Dieu. On est là devant la parole de Dieu, on voit des choses toutes plus belles les unes que les autres, on entend des gens nous dire qu'ils ont vécu des choses extraordinaires, on est comme devant une vitrine de choses magnifiques que Dieu veut, peut, promet, et en réalité, entre ce que l'on entend, ce que l'on nous dit et ce que l'on vit, ben il se passe pas lourd. Hein. Et on dit « qu'est-ce qui se passe ?» C'est qu'il faut être deux à la mairie. Il faut un engagement. C'est simple, c'est mathématique. Dans la vie chrétienne, vous n'avez pas des demi-mesures, des demi-engagements. La tiédeur, Dieu la réprouve. Les autres amours de mon cœur, Vincent a commencé le temps de louange en disant « Est-ce qu'on est amoureux de Jésus ?» Mais bien sûr, mais c'est ça la vraie question. C'est un ou zéro, ceux qui font un peu d'informatique, savent que derrière tout ce que vous voyez, derrière vos écrans, tout est une succession de 1 et de 0. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Tout est une succession de 1 et de 0. Excusez-moi, le royaume de Dieu, c'est un système binaire. C'est un système informatique. Jésus a dit, vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Il n'y a pas de place pour les sympathisants. Jésus a dit, puisses-tu être froid ou puisses-tu être bouillant. Mais si tu es tiède, je te vomirai, parce que s'il y a une chose que j'ai en horreur, c'est le mélange, c'est le partage, c'est que tu ne saches pas ce que tu veux et que tu ne te positionnes pas. Et la vie avec Dieu, c'est un ou zéro. Vous connaissez l'étape de multiplication ? Vous prenez 1 et 0 et vous les multipliez. Allez, on commence. Attention, niveau CE2, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Réfléchissez bien. Hein. 1 fois 0, 10 fois 0, 100 fois 0. Pourtant, j'en mets sur le paquet. Hein, 10, 100. Allez, on va passer à 1 million de fois 0. Et ça fait toujours 0. Et la toute puissance infinie de Dieu multipliée par 0, eh ben, ça fait toujours 0. La puissance infinie de Dieu multipliée par un cœur qui n'est pas engagé, ça fera toujours zéro, ça ne marchera pas. Parce qu'entre la promesse de Dieu, qui est oui et amen, qui est certaine, et l'accomplissement des promesses, il y a un grand mot-clé, il y a un grand trait d'union qui s'appelle engagement. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a un trait d'union, un mot-clé qui s'appelle l'engagement. Et si je n'ai pas un engagement de cœur, ce n'est pas un engagement des lèvres, si je n'ai pas un engagement de cœur, il ne va rien se passer. Je vais passer ma vie à attendre, à considérer, à me demander, à être spectateur de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Alors cette attente de Dieu, quand Dieu dit « Moi, à la croix, j'ai été tout entier à toi ». Je ne t'ai pas balancé quelques bénédictions du haut de mon ciel, je ne t'ai pas fait un chèque, je ne t'ai pas mis de l'argent sur ton compte en banque, je ne t'ai pas fait l'aumône, je n'ai pas eu pitié de toi. Jésus dit, je me suis donné moi-même, tout entier à moi, la plus belle, la plus grande preuve d'amour. Et Jésus, dans le désert, met son épouse dans le désert pour la reconquérir et que son cœur redevienne tout entier à elle. Et là, on a un autre texte, un autre contexte, mais la pensée est toujours la même. En vérité, Dieu dit à la croix, j'ai été tout entier à toi. Si tu veux que ça marche entre toi et moi, si tu veux que ta vie chrétienne elle prenne un sens, si tu veux vivre des choses, il va te falloir une autre mesure d'engagement. Il va te falloir un engagement de cœur. Et Dieu veut un engagement de cœur total, complet, inconditionnel. Pourquoi une telle exigence ? Son exigence repose sur sa nature, sa fidélité, sa puissance et sur son œuvre. Et c'est là que ce n'est pas anodin quand Dieu dit « la maison de Jacob ». Tu diras à la maison de Jacob, aux enfants d'Israël. Israël, c'est le nom que Dieu avait donné à Jacob. Il avait changé son nom. D'usurpateur, il est devenu prince de Dieu, vainqueur avec Dieu. C'est une façon pour Dieu de dire, est-ce que tu peux te souvenir à quel point je suis fidèle et à quel point je suis capable ? Ce n'est pas une figure de style, c'est une façon pour Dieu de dire, souviens-toi. Souviens-toi comment j'ai été fidèle envers toi. Souviens-toi comment je suis capable. Et là, Dieu enchaîne au verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et l'Égypte, on le sait, a été un déploiement, une manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai libéré et comment je vous ai porté vers moi sur des ailes d'aigle. Ici, il y a un rappel de la fidélité, de la capacité de Dieu à accomplir ses promesses. Dieu n'a pas à être mis en doute, il n'a pas à être remis en question. Il avait promis à Abraham de faire de lui une postérité nombreuse. Ils sont, c'est même pas qu'ils ont vu, c'est qu'ils sont eux-mêmes. Ils sont les témoins, les bénéficiaires, ils sont la preuve vivante. Ils existent, ils sont là, ils sont la preuve vivante que Dieu est bien le Dieu qu'il dit être. Ils sont la preuve vivante de sa fidélité et de sa puissance. Et quand on connaît un peu l'histoire de Jacob, pour ceux qui lisent un peu la Bible, notamment la Genèse, faire ça avec Jacob, c'était quand même un sacré exploit quand même. Parce que pour faire ça, le Seigneur, il n'a pas choisi le gars le plus simple. Il a pris un gars bien compliqué. Mais Dieu l'a fait, parce qu'il est fidèle et parce qu'il est capable. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous avez vu comment je suis le Dieu des impossibilités. Vous avez vu comment je ne souffre aucune limite. Les 10 plaies ont été un déploiement de force extraordinaire. J'ai fait disparaître Pharaon et son armée dans la mer. J'ai fait éclater ma gloire. Vous avez vu comment je l'ai fait fléchir. Vous avez vu comment j'ai entendu, comment j'ai répondu, comment je vous ai sauvé, comment je vous ai guéri, comment je vous ai protégé, comment j'ai nourri, comment j'ai pourvu. Souviens-toi, comment je t'ai porté sur des ailes d'aigle. Dieu est simplement en train de leur faire un petit rappel des 3 mois passés depuis la sortie d'Égypte. Souviens-toi comment je t'ai emmené à Mara, et alors que tu murmurais contre moi, tu m'as tenté, tu m'as mis à l'épreuve, je me suis humilié, je me suis abaissé, je t'ai quand même béni. Souviens-toi des 12 sources d'eau, des 70 palmiers à Élim. Souviens-toi de la manne et des cailles dans le désert de Sin. Souviens-toi de l'eau qui a jailli du rocher d'Horeb. Souviens-toi de la victoire sur Amalek dans le désert de Réphidim que tu viens de quitter. Le peuple a été le témoin et le bénéficiaire de la fidélité et de la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? L'extraordinaire grandeur de sa force, aujourd'hui, elle a été déployée en Christ. La plus belle et la plus grande preuve d'amour, c'est le cœur de Dieu, c'est la croix. La plus belle preuve de sa puissance et de son cœur, de son amour, de sa capacité. Il a vaincu notre ennemi, oui ou non? Il l'a rendu impuissant, il a détruit les œuvres du diable, oui ou non? Jésus n'est-il pas le plus grand libérateur qui existe? Oh, vous n'êtes pas convaincus, il est le libérateur, il a brisé vos liens, il a brisé vos chaînes, il a brisé vos passions. Vous êtes les témoins et les bénéficiaires de la puissance et de la grâce de Dieu par la croix. Et combien ici pourraient témoigner et dire « oui, je suis sauvé, oui, j'ai été guéri, oui, dans telle situation, Dieu a pourvu, oui, je devrais peut-être plus être de ce monde, mais Dieu est intervenu, oui, il y a eu, oui, il y a eu, oui, il y a eu ». Vous êtes les témoins, mais aussi les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Vous êtes la preuve vivante. En d'autres termes, Dieu a largement fait ses preuves. Dans sa parole et en dehors de sa parole. Et dans nos vies. Nous, comme eux, ils et nous, nous sommes la preuve vivante de la fidélité, de la puissance de Dieu, les témoins, les bénéficiaires de son action. Seulement, ce n'est pas pour autant que tout est réglé. Parce que le peuple vient de partir du désert de Réphidim et il arrive dans le désert du Sinaï. Le peuple a quitté un désert pour entrer dans un autre désert. Il y a des gens qui se disent « Tiens, ça ressemble étrangement à ma vie, ça. » C'est normal, c'est biblique. Oui, on est sorti d'Égypte. Oui, on a vu beaucoup de choses. On a été bénéficiaire de beaucoup de choses dans l'action de Dieu. Mais la vérité, c'est qu'ils sont encore dans le désert. Et ce qui m'a interpellé en méditant ce texte, c'est que Dieu dit « Maintenant !» C'est justement quand tu es dans le désert. C'est justement quand tu es dans une période de manque. Et on avait vu tous les aspects concrets que peuvent prendre nos manques. Quelle que soit leur forme, je ne reviens pas dessus, vous retrouverez tout sur Internet. Quelle que soit la forme, quel que soit le manque, et je vous avais parlé de ces hommes de Dieu dans la parole de Dieu qui avaient expérimenté toutes sortes de déserts, parce que Dieu leur avait donné une promesse extraordinaire, mais la vérité, la réalité pratique dans leurs circonstances, c'est qu'ils vivaient une situation totalement opposée à ce que Dieu avait promis. Et entre les deux, ils étaient dans un désert, ils avaient une parole de Dieu, ils avaient une promesse extraordinaire, mais la réalité de leurs circonstances, c'était tout l'inverse de ce que Dieu avait promis. Abraham, Joseph, etc., David, et j'en passe, et tant d'autres. Et là, c'est maintenant, verset 5, c'est justement quand tu es dans le désert, justement quand ça ne va pas, justement quand rien n'est réglé, justement quand tu cherches des solutions, quand tu cherches des bénédictions, quand tu voudrais que Dieu t'exauce, ça fait peut-être des mois, ça fait peut-être des années pour certains que vous dites à Dieu, « Seigneur, s'il te plaît, règle ça. Seigneur, s'il te plaît, agis là. Seigneur, s'il te plaît, exauce ça. Seigneur, bénis ici. » Et ça fait peut-être des mois et des mois et des années que vous êtes avec les mêmes prières. Puis vous en avez peut-être d'ailleurs tellement marre de les faire qu'en vérité, vous ne les faites peut-être plus. Parce que vous n'y croyez plus. Persévérer, c'est bien. Je ne sais pas trop où est la limite entre la persévérance et la multiplication de vaines paroles. Et il y a des moments, frères et sœurs, il faut se poser les vraies questions. Et le désert, c'est le super endroit pour se taire, pour écouter, pour méditer, pour réfléchir et pour se poser les vraies questions. Et dans cette écoute, Dieu dit à plusieurs, j'en suis convaincu aujourd'hui, maintenant, c'est justement quand tu es dans le désert, c'est justement au moment où toi, tu es toujours aussi vide, que tu es sec, que tu es languissant, il y a encore un malaise, tu n'es pas comblé, tu n'es pas rassasié, ton être est vide, tu es sec intérieurement. Mais il y a tellement de choses en toi qui sont totalement desséchées et tu es encore bien loin de la promesse. Dieu avait dit, je vais t'emmener dans un bon et vaste pays, là où coule le lait et le miel, c'est-à-dire la vie de plénitude, la vie d'abondance, la vie bénie, la vie épanouie, la vie de Dieu en moi, une qualité de vie, je vais t'emmener vers ce bon et vaste pays. Le peuple est sorti d'Égypte, mais il est encore dans le désert. Et c'est dur, mais c'est ainsi. Dieu a raison, il ne se trompe jamais. On l'a vu dans différents passages. Et l'histoire du peuple nous le montre aussi. La mauvaise nouvelle, frères et sœurs, c'est qu'on ne sort pas de nos déserts tant que les objectifs de Dieu ne sont pas atteints dans nos vies. Vous êtes passé par Mara, ça n'a pas suffi. Bon, je vous emmène à Élim. Ah, à Élim, tu n'as toujours pas compris. Bon, je vais t'emmener à Réphidim. Ah, à Réphidim, tu n'as toujours pas compris. Je vais t'emmener au Sinaï, on va repasser le test. Il faut que ça marche, il faut que tu réussisses ce test de foi. Et ce que Dieu veut dans le désert, c'est voir son peuple s'engager réellement, se réengager tout à nouveau. Et c'est justement quand tu es dans le désert, au moment où ça ne va pas, où tu es éprouvé spirituellement, physiquement, d'un point de vue affectif, professionnel, matériel, mettez ce que vous voulez, c'est justement là que Dieu te dit, maintenant, il va falloir vraiment reconsidérer la mesure de ton engagement. J'ai besoin que tu t'engages de cœur avec moi. Un engagement de cœur, un engagement inconditionnel, un oui déterminé, un oui du cœur. Être tout entier à lui comme il est tout entier à moi. Frères et sœurs, là, et je dis aussi aux amis qui sont là, qui nous visitent, peut-être des gens qui ne sont peut-être pas encore dans la foi ou qui sont simplement en approche, frères et sœurs, nous ne sommes pas des religieux. La vie chrétienne, la vie de Dieu, ce n'est pas un plus dans ma vie. Être chrétien, ce n'est pas la carte Leclerc, ce n'est pas la carte Carrefour. Être chrétien, ce n'est pas une adhésion, ce n'est pas un abonnement. Être chrétien, ce n'est pas d'adhérer à certains principes de façon intellectuelle, à certains principes moraux de vie. Être chrétien, ce n'est pas un plus dans ma vie. Être chrétien, c'est ma vie. Et je vis en conformité avec les principes du royaume de Dieu, principes qui sont révélés dans sa parole. Je ne fais pas le chrétien, je n'ai pas une carte de chrétien, je suis chrétien. Avant j'étais flic, aujourd'hui je ne suis plus flic, aujourd'hui je suis chrétien. Il y en a d'autres qui sont dans l'armée, qui sont profs, qui sont... Mais au-dessus de tout ça, je suis chrétien. Et je ne règle pas, je ne gère pas ma vie ou je ne gère pas les situations avec mon expérience de flic, je la gère avec la parole de Dieu. Je vis selon les principes du royaume de Dieu. Être chrétien, c'est ma vie. Jésus est ma vie. Il n'est pas seulement un sauveur, il est aussi un Seigneur, il est aussi ma vie. Amen. Et tant qu'on ne rentre pas dans cette dimension de dépendance, de foi et de relation avec lui... C'est ce qu'on a vu quand on a parlé du prophète Osée. Ah, excusez-moi de le dire ainsi, mais peut-être que Jésus est peut-être plus pour vous un colocataire que l'amour de votre vie. Ah oui, il est dans la maison, oui, mais c'est un coloc. Il a sa chambre et vous la vôtre. Vous partagez la cuisine de façon alternée. C'est un coloc. Puis parfois, c'est ma femme de ménage, parce que ça m'arrange que le Seigneur il règle deux, trois trucs dans ma vie quand même. Parfois, c'est juste un livreur. « Ah, Seigneur, j'ai besoin de ça, s'il te plaît. » Tiens, je vais mettre 2 euros mardi soir à la prière. Oh, une bénédiction, super. Mais Dieu n'est pas un livreur. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Jésus veut être la passion de ma vie. Il est mon amour. Il est ma vie. Il n'est pas dans ma vie. Il est ma vie. Maintenant, Et c'est justement au moment où tu manques, au moment où ça ne va pas, que le Seigneur te dit, il faut que tu passes par cette case engagement. Si tu ne t'engages pas, ça ne marchera pas. Verset 4, c'est comme si Dieu disait, moi j'ai largement fait mes preuves, j'ai rempli ma part du contrat, je t'ai accordé un oui du cœur, je te l'ai prouvé de différentes façons. Verset 5, on va voir maintenant si toi, tu vas remplir ta part du contrat. Parce que pour une alliance, pour un mariage, pour un contrat, quelle que soit sa teneur, il faut toujours deux oui, il faut deux signatures. Et la signature que je peux donner à Dieu, ce n'est pas le oui de mes lèvres, c'est le oui de mon cœur, c'est la signature de mon cœur, tout simplement. Comprenez bien, frères et sœurs, que c'est ça la foi. Dieu ne vous demandera jamais de vous engager dans un moment où ça vous arrange. Jamais dans un moment où tout baigne, où tout va bien. Nous, on aimerait bien que Dieu fasse ça, qu'il règle ça, qu'il arrange encore ça, que là, ça aille mieux, qu'il me donne encore, encore, encore une autre preuve d'eux, et ensuite, je m'engagerai. La vérité, c'est que 40 ans après, ils ne se sont toujours pas engagés. 40 ans après, ils sont encore spectateurs. Souvenez-vous de Marthe, quand elle est dans ce désert terrible, le deuil est un désert affectif, sentimental, terrible. Elle a une énorme déception, son frère Lazare est mort. Jésus n'a pas bougé pour venir, s'il était venu, il aurait prié, il aurait été guéri. C'était simple pour lui, et Jésus n'avait rien fait. Et Marthe et Marie, elles sont là, elles sont en train de pleurer leur frère, elles sont dans un désert affectif, familial, sentimental, profond. Et au moment où elle est au fond du fond, au moment où elle ne comprend rien, elle ne comprend même pas pourquoi Dieu ne lui a pas donné le légitime qu'elle lui avait demandé. C'est à ce moment-là que Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est au moment où elle est au plus bas, c'est au moment où elle est complètement déstabilisée, que Jésus va mettre sa foi à l'épreuve. Parce que ma foi, je la mets en action sur la base de ce que Dieu dit, pas sur la base de ce qu'il a fait. La foi ne vient pas des miracles. La foi vient de la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu dit qui me donne la foi. Et avec sa parole, plus toutes ces manifestations de grâce et de puissance, Jésus dit, il est peut-être grand temps maintenant que tu commences à réviser la mesure, la hauteur de ton engagement avec moi. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est simple. En quoi ça va consister? Deux points très simples. Jésus a mis deux conditions très simples. Un, si vous écoutez ma voix. Deux, si vous gardez mon alliance. Si vous écoutez ma voix, c'est un cœur soumis et obéissant. Écoutez ici dans l'hébreu, et même si vous cherchez dans un dictionnaire en français, écouter, ça n'a rien à voir avec le verbe entendre. Le verbe écouter, ça signifie littéralement s'abandonner à. C'est vraiment un acte d'abandon. Écouter, tenir compte de ce que dit quelqu'un. Tenir compte de ce que dit quelqu'un. Comment est-ce que je sais si j'écoute ce que Dieu me dit ou pas? C'est pas quand je suis assis ici. C'est pas quand on est là tous ensemble, même si c'est super sympa d'être là tous ensemble. Mais c'est pas là que je sais. C'est à partir de demain, quand je vais retourner dans ma situation, dans mon désert, dans mes problèmes, dans mes épreuves, dans mes tempêtes, dans mon adversité. Et demain, en fonction des choix que je vais faire dans ces situations-là, je pourrais dire, ah, j'ai écouté la voix de Dieu, ou malheureusement, je ne l'ai pas écouté. Écouter, s'abandonner à tenir compte de ce que quelqu'un dit. Faire ce que quelqu'un dit. Ben, en d'autres termes, ça veut dire simplement obéir. La foi, c'est une relation de dépendance à sa voix, c'est une relation d'obéissance. Ce qui est bien, ce qui est marrant, c'est que déjà étant petit, enfant, on n'aimait pas le mot obéissance, et quand on est grand, on ne l'aime toujours pas, c'est marrant. Hein, enfin, sauf quand on dit à nos enfants, hey, c'est écrit dans la Bible, hein, il faut obéir à tes parents. Hein. Là, on aime bien. C'est le seul contexte dans lequel on aime bien le mot obéissance. Mais même quand on est adulte, malheureusement, on a toujours des problèmes avec ça. Pourtant, ça reste le béaba de la vie avec Dieu, c'est la dépendance de la foi. Ne me demandez pas pourquoi Dieu a choisi ça. Il est Dieu, c'est son choix souverain. Dieu a choisi ce mode de relation entre nous et lui. Et Dieu dit dans sa parole de tellement de façons, mais Hébreux 11 le résume très bien, c'est par la foi. C'est par la foi que Moïse, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Sarah, c'est par la foi. Et Dieu a besoin qu'on lui fasse confiance. Il y a des fois des gens, ils me disent, comment est-ce que je pourrais plaire au Seigneur? Comment je pourrais être mieux pour lui? Tu sais, je fais beaucoup d'efforts pour être mieux pour lui. Mais c'est pas ce qu'il te demande. Parce que tu ne peux pas te changer, c'est lui qui te transforme par le Saint-Esprit. La meilleure façon de faire plaisir à Dieu, de l'honorer, de le réjouir, c'est de lui faire confiance. C'est tout. Ta confiance, une confiance aveugle, sûre, en béton armé, tu es sûr de Jésus, ou pas trop. Mais la Bible dit, sans la foi, sans cette confiance en béton armé, il est impossible de lui être agréable. Si je n'ai pas cette dimension-là avec lui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas lui être agréable. Lorsque la foule se tourne vers Jésus en Jean 6, elle dit, « Seigneur, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu ?» Jésus leur dit, « L'œuvre de Dieu ?» Mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est la foi. Croyez en celui que le Père a envoyé. Croyez en lui, croyez en moi. Dieu a besoin qu'on lui fasse confiance. Vous aimez quand on vous remet en question ? Quand vous faites tout ce que vous pouvez dans une situation avec vos enfants, au travail, je ne sais, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour que... Et puis on arrive par derrière, ouais, de toute façon, s'il a fait ça, eh ben c'était pour ça. Et puis, non, c'est un menteur, et puis c'est un ceci. Et quand on vous casse, on vous critique, on vous met en question publiquement ou secrètement, par calomnie, par derrière, vous connaissez ce sentiment intérieur d'humiliation, de blessure, d'indignation ? Ça fait mal quand on nous remet en question sur ce que l'on est. Il y a une chose qui fait mal à Dieu plus que tout le reste, c'est quand on le remet en question, quand on ne croit pas en lui, quand on ne le croit pas lui. Et la plus belle chose qui puisse l'honorer et le réjouir, eh bien, c'est tout simplement la foi, cette relation de dépendance, de confiance. Dieu est l'auteur de la foi. La foi ne vient pas des miracles. La foi vient de sa parole, il est l'auteur de la foi. Et l'Épître aux Hébreux dit qu'il est aussi le consommateur de la foi. C'est-à-dire que cette parole qu'il a initiée dans mon cœur, la foi il me la donne, et il faut que je lui retourne par une démonstration concrète, par des actes dans ma vie, des démonstrations de foi. Et quand la foi l'honore, le réjouit, il consomme ma foi, la Bible dit alors que dans une troisième étape, il est le rémunérateur de la foi, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est autant auteur que récepteur que rémunérateur de la foi. Dieu a besoin que tu lui fasses pleinement confiance. Et comment est-ce que je sais si quelqu'un me fait pleinement confiance ou pas? Comment Dieu va-t-il savoir si tu lui fais pleinement confiance ou pas? C'est du béton armé dans ton cœur? Ou c'est un oui de raison, un oui intellectuel, un oui de lèvres, un oui de principe? Et c'est là que l'Épître aux Hébreux dit, la foi est une démonstration. La foi, elle se démontre toujours par des actes concrets. Des actes de quoi? Des actes d'obéissance. La foi se démontre. Vous allez voir votre médecin. Ben voilà, je ne me sens pas bien, etc. Le médecin, il vous fait un diagnostic. Et puis, il vous dit, vous avez ça ou ça ou ça, voilà l'ordonnance. Il vous donne son ordonnance, tout comme Dieu, dans sa parole, nous donne des ordonnances, des paroles, des ordonnances, écrites. Votre médecin dit, vous allez prendre ça, 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 vous allez faire ça et ça et ça pendant 3 jours, ça pendant 7 jours, ça, 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 et vous revenez me voir. Vous allez voir votre pharmacien, ou pas, je ne sais pas. Il vous donne les médicaments en conséquence, il vous a prescrit. Et puis, quelque temps plus tard, le médecin, vous le croisez dans la rue, il vous dit, ah, monsieur un tel, madame une telle, alors, vous allez mieux? Oh non, docteur, oh, ça ne va vraiment pas. Ça. Je ne comprends pas, parce qu'avec ce que je vous ai prescrit, c'est sûr et certain, ça doit marcher. Au fait, qu'est-ce que vous avez fait de mon ordonnance ? Oui, mais vous comprenez, parce qu'en fait, j'avais pas le temps, et puis bon, quand même, faut peut-être pas être excessif, bon, vous comprenez... vous l'avez pris ou vous l'avez pas pris ? C'est 1 ou 0, vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait ? Ben, c'est-à-dire que j'ai pris le premier jour, puis ensuite le deuxième... Bon, d'accord, donc vous l'avez pas fait. Vous n'avez pas écouté votre médecin. Vous n'avez pas tenu compte de ce qu'il vous a dit. Vous n'avez pas fait ce qu'il vous avait dit. Il y a combien de prescriptions divines, c'est pas méchant, hein, il y a combien d'ordonnances écrites divines qui sont en suspens dans nos vies. Et chaque fois qu'on recroise le Seigneur, on se plaint que ça ne marche pas. Et un jour, c'est inévitable, Dieu dit, mais au fait, quand est-ce que tu vas arrêter de lire ma Bible ? Quand est-ce que tu vas arrêter de lire, d'entendre, mais que tu vas vraiment commencer à observer ma parole, observer mes ordonnances. Et que toutes les ordonnances qui sont en suspens dans ta vie, parce que tu ne veux pas obéir, parce que tu ne veux pas t'engager, parce que tu ne veux pas démontrer ta foi, ça va durer combien de temps ? Vous savez que le peuple, au bout de 40 ans, parce que le drame du peuple, c'est que consciemment ou inconsciemment, hein, il est rentré dans un bras de fer avec Dieu. Secret. Dans un bras de fer avec Dieu, on perd toujours. Ça ne sert à rien. Pendant 40 ans, Dieu a essayé d'entraîner son peuple dans la, avec des lettres majuscules, la relation par excellence, la foi, la dépendance, l'obéissance de la foi, pendant 40 ans. Et malheureusement, puisqu'ils n'ont pas voulu écouter, ils en sont morts. Si vous écoutez ma voix, et puis la deuxième chose que Dieu leur dit, c'est si vous gardez mon alliance. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lui donner notre cœur un jour, il faut lui rester fidèle. Si vous gardez ma parole, si vous l'observez, si vous gardez mon alliance, si vous gardez mon ordonnance, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est constant dans ses engagements, dans son attachement à Dieu. L'un des plus gros drames de notre société actuelle aujourd'hui, à tous les niveaux, y compris dans, surtout dans le domaine des couples, c'est l'infidélité. Le manque de constance, le manque de persévérance. Pour un oui, pour un non, on décroche. Pour un oui, pour un non, on passe à un autre ou à une autre. Infidélité. Et Dieu dit, j'ai besoin que tu me fasses pleinement confiance, mais j'ai besoin que tu restes attaché. Il faut que tu sois constant, que tu restes avec moi. Et c'est là qu'on a parlé du livre d'Osée, parce que chaque fois que Dieu veut nous faire comprendre quelque chose au niveau de la relation qu'il veut avec nous, la relation passionnée, il prend toujours l'image du couple. Je ne sais pas ici s'il y a des filles qui sont célibataires et qui cherchent l'homme de leur vie, ou inversement, des hommes qui cherchent la femme de leur vie. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si un jour un homme venait voir une jeune fille, puis qu'il lui dise, ah tu sais, toi et moi, ce sera vraiment, je te donne tout mon cœur, je vais vraiment passer ma vie avec toi, je vais t'aimer, on va être bien, tu ne seras pas une femme de ménage, tu ne seras pas juste ma coloc, on va vraiment s'aimer, on aura une relation, on vivra d'amour et d'eau fraîche. C'est ça la vie avec Jésus, on vit d'amour et d'eau fraîche. On vivra d'amour et d'eau fraîche. Et toi et moi, ce sera une histoire de cœur, ça va être beau, ça va être passionné, ce sera même plus beau que tous les films hollywoodiens. Nous, toi et moi, ce sera du 100%, mais seulement une semaine sur deux. Comment ? Quoi ? Et la deuxième semaine, tu m'expliques, ah ouais, mais la deuxième semaine, tu sais, il y a Jessica, il y a Melinda, il y a la Tchatcha, il y a machin, il y a une telle. Et il faut que je me garde une marge de manœuvre aussi pour mes amis, hein. Mais t'inquiète pas, tu seras quand même ma favorite. Je crois que le beau prince, il va remballer sa bague et sa déclaration, il va se retrouver je ne sais pas où, mais ça va être vite torché pour lui. Personne, mais vous comprenez, personne n'accepterait une relation comme ça. Personne n'accepterait ça. On est logique. Pourquoi on n'est pas logique avec Dieu ? Et pourquoi Dieu, lui, qui est grand, qui est parfait, qui est légitime, qui n'a pas besoin de faire ses preuves et qui les a fait de toute façon, pourquoi il devrait se contenter des miettes de ma vie, des restes de mon amour, des restes de ma vie? Si tu gardes mon alliance, si tu restes fidèle, tu restes constant dans ton attachement à ma personne. Et là, il y a la promesse extraordinaire de Jésus. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Dieu est en train de dire, on va nouer ensemble une relation exclusive. Et cette relation exclusive va déboucher sur un accès privilégié au roi que je suis, un royaume de sacrificateurs, un accès privilégié au roi, à ses ressources, le privilège de vivre toutes les bénédictions et toutes les promesses du royaume dans mon cœur, dans ma vie, dans mes circonstances. Le privilège aussi, puisque Dieu dit « toute la terre est à moi », le privilège d'être aussi des intermédiaires entre Dieu et les hommes, d'être l'expression du cœur de Dieu ici-bas. Le privilège de vivre de toutes les bénédictions du royaume. Je sais une chose, pour plusieurs ici ce matin, si vous ne révisez pas la hauteur de votre engagement avec Dieu, il ne se passera rien. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a l'engagement. Oui, Dieu t'aime, mais ce n'est pas suffisant. Oui, Dieu est tout-puissant, mais ce n'est pas suffisant. Entre sa promesse et son accomplissement, il y a ton engagement. Ce qui est triste, je termine avec ça, c'est que le peuple, il nous est dit qu'il campa là, dans le désert, vis-à-vis de la montagne. Le problème du peuple, ce n'est pas qu'il est campé physiquement parlant, il fallait qu'il attende. Le problème du peuple, c'est qu'il a campé spirituellement parlant. Il est resté sur des positions spirituelles. Il a refusé de marcher par la foi. Il a refusé de s'investir. Il a refusé de s'engager. Il a refusé de céder son cœur. Il a refusé d'obéir. Leur problème, c'est qu'ils n'ont jamais engagé leur cœur. Alors, en conclusion, je dirais que dans ton désert, au lieu de chercher des réponses, au lieu de chercher des exaucements, au lieu de chercher des solutions, au lieu de chercher encore des bénédictions, au lieu de chercher des issues, au lieu de chercher la facilité, et si pour changer tu cherchais Dieu, tu cherches juste sa voix et savoir ce qu'il veut maintenant, ce qu'il attend de toi. Si certaines promesses de Dieu sont encore en suspens dans ta vie, si certains aspects de ta vie sont encore comme des déserts, si tu tournes en rond, s'il y a encore tellement de limites, d'échecs, de problèmes, au lieu de te demander ce que Dieu peut encore faire pour toi, si pour changer tu te demandais ce que tu as à faire pour que ça marche, quelle partie de ton cœur, de ta vie, tu dois peut-être mettre en règle? À quel moment dans ton historique évangélique chrétien, à quel moment est-ce que tu as commencé à camper? À quel moment est-ce que tu as laissé passer la première parole que Dieu t'avait donnée, puis une deuxième, une troisième? À quel moment dans ta vie spirituelle tu as commencé à camper et à ne plus bouger, à ne plus avancer? Et c'est là qu'il faut revenir, et c'est là qu'il faut obéir et se remettre en règle. Si Dieu te semble lointain, c'est un grand tort parce que Dieu est proche de toi. Il n'est pas distant, il est tout proche. Il attend simplement ton engagement de cœur, un cœur à 100%, un cœur plein et entier, un cœur soumis, un cœur obéissant, un cœur confiant, un cœur qui s'abandonne. J'aimerais qu'avant le temps de la scène, on puisse rechanter ce chant « Prends mon cœur, prends mon âme, prends ma vie ».